I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed. Les rogamos presentarse a la puerta del parking.
Fata a 20 ans quand il débarque pour la première fois en Jamaïque. Avec ses rastas et sa maîtrise du patois, les Jamaïcains l'adoptent. Lui et ses 100 kilos lui valent vite le pseudo de Fata, le gros. À l'époque, il fait des razzias dans les studios de Kingston et récupère un son qu'il a mis plusieurs années à identifier. Pressé à seulement quelques exemplaires à la fin des années 60, on y entend des musiciens alors inconnus. Je suis Claire Corion, votre chef de cabine, pour un décollage musical immédiat. Destination Kingston.
J'ai trouvé ce disque-là dans les années 90 en Jamaïque. Le titre, j'ai mis quasiment 20 ans à le trouver. Le groupe, c'est les Hippie Boys, donc c'est un instrumental qu'on appelle Death Rides a Horse, qui est le titre d'un western spaghetti de 1967, 68, 69, je suis plus sûr. Donc c'est un instrumental, et donc ce qu'on appelle The Hippie Boys, c'est des musiciens qui deviendront quelques mois plus tard les Upsetters, et quelques années plus tard qui seront les Wailers, qui seront les musiciens de Bob Marley, donc basse batterie notamment, les frères Barrett. Les Western Spaghetti ont été très très populaires en Jamaïque, à tel point qu'il y a une génération d'artistes des années 70 qui a repris des noms de cow-boys des films Spaghetti, donc en Jamaïque, t'as Clint Eastwood, Lee Van Cleef, The Bad, The Good and The Ugly, ça a été repris beaucoup, Le Bon, La Brute et Le Truand. Les Jamaïcains étaient très friands des gangsters américains et des héros de western. Là, sur le disque qu'on a écouté, c'est le même thème, mais sauf que c'est joué avec une rythmique reggae. Après, c'est librement inspiré, mais le thème est quand même le même. Ce qui m'intéresse, c'est le crossover, c'est le mélange entre ces cuivres mexicains, enfin hispaniques, et cette rythmique reggae qui est une musique de danse et qui est up-tempo. Il est enregistré dans un studio qui m'est cher, chez Studio One. Donc, pour faire court, c'est la Tamla Motown jamaïcaine, c'est le label le plus emblématique de la Jamaïque. Le propriétaire s'appelait Coxon Dodd, enfin son nom complet c'est Clement Seymour Dodd. Je l'ai connu chez lui, dans le studio. J'ai enregistré dans le studio et dans les années 90, j'allais en Jamaïque pour acheter des disques pour les boutiques de disques parisiennes qui vendaient du reggae. Donc j'allais chez tous les distributeurs et eux, ils distribuaient directement au studio. Donc j'ai eu la chance de rencontrer cet homme qui est décédé en 2004. Tous les plus grands artistes de la Jamaïque ont commencé chez lui. Bob Marley and the Wailers, donc Bob Marley, Peter Tosh, Benny Wailer, les Gladiators, Culture, Burning Spear, John Holt, Delroy Wilson, tous les plus grands artistes, de la Jamaïque, donc aussi ceux qui ont été connus à l'international dans les années 70, ont commencé chez lui. Spécificité de la musique jamaïcaine, c'est d'être d'abord pressé sans label, donc avec un label blanc sur lequel les DJ ou les producteurs mettaient une annotation au stylo, des fois pas du tout. Et en fait, ce disque-là n'est jamais sorti avec un label. Donc il existe que ce qu'on appelle un test press, Alors les tests presse, selon les époques, c'est 30, 40, 50, 100 copies. Celui-là, je ne sais pas. Enfin, tu vois, il a 50 ans, le morceau, il n'a pas eu de vie avant. Personne n'a joué. Il n'a jamais été sur aucune compilation, il n'a jamais été sur aucun album. Bon c'est un des trucs perdus de la musique jamaïcaine. Non, mais il y en a d'autres. C'est un 7 pouces. Donc en français, c'est 17 cm, c'est ça, ouais. C'est des trucs de DJ, quoi. Tu vois, mais même les gens, ils achetaient un morceau. Les disques jamaïcains, contrairement aux mêmes morceaux qui ont été plus tard importés en Angleterre et pressés en Angleterre, ils ont un master qui est fait pour jouer sur un sound system. Les disques sont pas faits pour jouer sur un petit pick-up ou à la radio, ils sont faits pour jouer sur les sound system. Donc ça fait une différence sur les fréquences qu'on va mettre en avant. Les Jamaïcains, c'est un peuple de danseurs. Ils viennent danser aux soirées, quoi. On se met pas contre un mur. C'est pas une lounge, quoi. C'est un dance hall. C'est un dance floor. En Jamaïque, c'est assez fréquent à l'époque que on dise oui, je connais quelqu'un qui a machin, et puis tu te retrouves chez quelqu'un qui a une pièce remplie de disques du sol au plafond. Moi, j'ai eu la chance de bosser dès le début avec des gens d'une boutique qu'il y a dans le centre-ville, ou la boutique abandonnée de tous, mais bon, c'est un endroit mythique de la musique jamaïcaine. Ça s'appelle Randy's. Eux, ils avaient un entrepôt avec ce qu'on appelle les overstocks, donc ce qui est resté des invendus. Et donc déjà, voilà, mon premier jour en Jamaïque, mes deux, trois premiers jours, j'ai regardé tous les disques du sol au plafond. Je sais pas, à vue de nez, il y a peut-être 20 ou 25 000 disques, je sais pas. Je me suis tapé tout ça dans la poussière avec un bandana sur le nez, parce que le premier soir j'ai fait une crise d'asthme alors que je suis pas asthmatique, mais il y a tellement de poussière. À l'époque, j'allais 2-3 fois par an en Jamaïque, donc c'est assez dur de me souvenir avec précision où j'ai trouvé celui-là. Et quand même, à l'époque, j'avais peut-être sur un voyage de 15 jours, j'allais peut-être à 15 ou 20 endroits différents. Le truc, c'est que je l'ai eu dans ma collection pendant des années, mal rangé, au milieu de disques d'un autre label. Puis au bout d'un moment, en regardant un numéro de matrice, je me suis aperçu que c'était pas ce label. Encore aujourd'hui, j'ai des disques que j'ai trouvés en Jamaïque, donc sans label, que j'ai toujours pas identifié. Après, là, c'est depuis 10 ans, c'est beaucoup plus facile. Il y a 15, 20 ans, 25 ans, j'étais obligé de demander des fois à d'autres chanteurs ou à des musiciens s'ils reconnaissaient un style de chant ou un style de jeu, pour commencer à avoir des pistes, puis après me taper des listings entiers avec les numéros de matrice pour essayer de trouver celui qui va. Enfin bon, c'est assez compliqué. Celui-là, il me semble que je l'ai trouvé dans un ghetto de Kingston, mais bon, Kingston, c'est quasiment que un ghetto, donc ça parle pas beaucoup. Les ghettos actuels de Kingston, beaucoup d'entre eux sont des anciens quartiers résidentiels, mais qui ont été complètement abandonnés. Enfin, tu vois, t'as des trous dans les routes, comme s'il y avait eu des bombardements. Les maisons, tu les regardes, tu te dis, bon, il n'y a pas eu un coup de peinture depuis 1962. Enfin, c'est dans un état d'élaborement assez incroyable. Avec rajouté à la Jamaïque le trafic de drogue et les gangsters qui tiennent des quartiers pour leurs intérêts, machin. Bon, il y a 25 ans, c'était difficile de rentrer dans certains quartiers. Après, j'ai bossé avec pas mal d'artistes jamaïcains qui habitaient dans ces quartiers. Et bon, quand tu vas dans un quartier comme ça, au pire, on te demande, ouais, tu veux voir qui, tu donnes le nom, et puis comme c'est quelqu'un de respecté, les gens te laissent tranquille. Et puis, moi, j'ai jamais eu de soucis. Kingston, c'est une des trois villes les plus dangereuses du monde. Moi, il m'est jamais rien arrivé. Je parlais déjà bien anglais quand j'y suis allé, mais assez rapidement, j'ai appris la langue locale qui s'appelle le patois. Et évidemment, quand tu parles aux gens, comme je bosse avec des artistes jamaïcains, donc je parle jamaïcain tous les jours. Ça a été le sésame ultime, parce que quand les gens ils parlent comme si t'étais un touriste, et que tu leur réponds avec les expressions de leur quartier, ça détend tout de suite. Et bon, à l'époque aussi, j'avais des dreadlocks, donc Rastas, toujours respecté. Ils vont au moins poser 2-3 questions avant de te dépouiller ou de te tuer, quoi. La Jamaïque, c'est vachement plus facile aujourd'hui. Tout est bien lisse, tout est bien... les chemins sont bien balisés, quoi. C'est Disneyland pour les amateurs de reggae, quoi. Il y a tout, tu peux aller partout. Ça bouge vite aussi comme pays et je pense que pas mal est perdu aujourd'hui. J'ai pas trop une mentalité de touriste, donc je suis pas sûr que de retourner en Jamaïque juste pour aller voir des potes, quoi. J'ai connu la Jamaïque à une époque où, quand je faisais Miami-Kingston, dans l'avion, j'étais le seul blanc, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de touristes à Kingston. Tu rencontrais de temps en temps un mec comme ça, tu disais, tiens, ouais, il y a un japonais, ah ouais, cool, salut, ça va, tu fais quoi? Bah, pareil. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé à y aller, un jeune français, machin, et puis j'y suis allé beaucoup aux mêmes endroits. Et puis moi, j'aime bien la vie, je me sens bien avec les Jamaïcains, tu vois, c'est des gens que j'adore, et donc je passe beaucoup de temps dans les soirées, dans différents quartiers, quand j'avais un peu de temps à traîner, à fumer des joints au coin de la rue avec les anciens, tout ça. Et comme j'aime la langue, ben, moi, je parle beaucoup et je communique et je pose des questions aussi parce que j'ai rencontré des acteurs et des témoins d'une période qui m'est chère. Donc c'était toujours hyper intéressant d'aller à Kingston et bon, là j'y retourne, bon, j'ai changé, mais je pense qu'ils me reconnaîtront. Gros, fat. Et puis en Jamaïque, c'est fatter, fata, F-A-T-T-A. Voilà. Et finalement, c'est assez facile, du coup. Ouais. Puis les Jamaïcains, ça leur fait rigoler. Tu vois. Ouais, t'appelles fata, bah c'est facile, il y en a plein ici, des fatas. J'en doute de plus. C'est un peu plus super accueillant, malgré ce qu'on pourrait croire. Faut briser un peu la glace, tu vois. La Jamaïque a une forte production musicale, hein, c'est la plus forte par habitant du monde. Donc, ouais, je sais pas, j'avais lu qu'on estime qu'il y a à peu près 10% de la population qui a déjà fait un disque, quoi. Donc, bon, je sais pas, c'est complètement exact, mais je suis à peu près sûr que c'est quand même une partie significative. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la typicalité de la musique jamaïcaine. Et aujourd'hui, la typicalité a quasiment disparu, puisque aujourd'hui, n'importe qui qui a un ordi, un clavier et un micro est producteur. Et on parle d'une génération de producteurs, des jeunes, qui ont été élevés au câble américain. Donc tout ce qu'ils connaissent, c'est MTV et le rap américain, le R&B américain, tu vois, pour la plupart. Nous, on connaît mieux la musique jamaïcaine que 99,9999% des producteurs actuels de musique jamaïcaine. Enfin, tu vois, et puis j'en connais quelques-uns, je peux t'assurer qu'ils connaissent pas la musique jamaïcaine comme on la connaît. Donc finalement, ils ont une culture musicale quasiment plus américaine. Bizarrement, ils ont perdu ce que les gens aimaient en Jamaïque, quoi. Après, il y a quelques productions bien, il y a quelques artistes bien encore, il y a un retour des groupes en Jamaïque, mais ça reste des jeunes hyper orientés vers les États-Unis, quoi. Donc, moi, pour moi, ça a perdu de l'intérêt, quoi.